Qu'est-ce qui a changé ?
Depuis hier, vous voulez dire ?
Depuis la nuit des temps, la nuit des temps, la
nuit des temps. Radio Campus !
Je vous jure qu'après ça, leur vie ne sera plus jamais.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans, il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. Aujourd'hui c'est une émission spéciale car nous sommes le 4 avril et c'est le deuxième forum handicap organisé à l'Université d'Orléans. L'événement se déroule toute la journée jusqu'à 17h30 à la maison des étudiants où nous sommes actuellement. Ce forum a pour objectif de sensibiliser le cas du handicap au sein de l'université, mais aussi dans le monde professionnel. En première partie de l'émission, donc, nous aurons Antoine qui nous a préparé un sujet sur le handicap qui est porté par l'Université d'Orléans. Et puis en deuxième partie, Ludo, lui, nous a préparé des questions sur le sujet donc, du handicap dans l'associatif. Et enfin, en troisième partie, Chris continuera avec l'associatif, mais pas que, sur le sujet du handicap. Et donc, comme vous l'avez deviné, tous les jeudis, j'ai autour de ces tables mes meilleurs chroniqueurs, Chris, Ludo et Antoine, qui vous ont préparé plein de questions sur le sujet du handicap. Et je commence avec toi, Antoine, je t'en prie. Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui j'ai autour de la table Madame Médussin. Donc vous êtes chargée de mission handicap égalité des chances auprès des étudiants de l'Université d'Orléans. Bonjour. J'ai Madame Billet, on prononce comme ça ? Billet, donc vous êtes en charge de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel en situation de handicap. Bonjour.
Bonjour.
Et j'ai Monsieur Chavrier, vous êtes vice-président délégué à l'égalité des diversités, de l'inclusion et de la qualité de vie au travail au sein de l'Université d'Orléans. Bonjour.
C'est exact, bonjour.
Donc vous venez ici pour nous présenter le forum du handicap, donc deuxième édition de ce forum organisé aujourd'hui, donc jeudi 4 avril de 9h30 à 17h30 à la maison de l'étudiant, donc sur le campus d'Orléans. Donc l'objectif de ce forum est de proposer à l'ensemble de la communauté universitaire, donc personnel et étudiant, un lieu d'échange d'informations et de conseils avec des professionnels autour du handicap et des associations étudiantes. Donc ma première question c'est, est-ce que vous pouvez nous décrire vos principales missions, votre rôle au sein de l'université ?
Donc je commence, c'est ça. Donc en tant que vice-président en charge des questions d'égalité, diversité, inclusion et qualité de vie au travail, donc là l'accent va être mis sur la dimension inclusion, le but étant au niveau des personnels de déployer une politique d'accompagnement dans l'emploi et de maintien dans l'emploi de l'ensemble des personnels de l'université. Il faut savoir qu'un bon nombre des handicaps apparaissent durant en fait la carrière, peu importe le milieu, hein, qu'on soit à l'université ou dans d'autres sphères professionnelles, les handicaps apparaissent quand même grandement durant la carrière avec le vieillissement ou avec les accidents liés à la vie. Ça peut être des handicaps permanents ou temporaires et l'université accompagne au mieux, donc avec Madame Billet en sa qualité de correspondante handicap auprès des personnels, dans les différents aménagements de manière à pouvoir s'adapter à toutes les situations pour maintenir les meilleures conditions de vie au travail des personnels qui pourraient se retrouver dans des situations telles que celles évoquées.
D'accord, merci. Et vous, Madame Médussin ?
Alors moi, je travaille avec un service qui s'appelle la passerelle handicap et c'est le service qui est en charge des aménagements d'études et d'examens pour les étudiants. Alors handicap temporaire ou permanent également. Et voilà, donc c'est le service auquel on fait appel quand on a un trouble de dyslexie, par exemple, ou de la surdité, etc., pour que les études se passent de manière la plus fluide possible.
D'accord. Et vous, Madame Billet ?
Eh bien, moi, en tant que correspondante handicap, j'accompagne les personnels dans leur quotidien. Lorsqu'une personne est recrutée, elle peut nous informer de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou non. Si elle le fait, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour qu'elle puisse exercer sa profession dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le maintien dans l'emploi, il en va de même. Ils prennent contact avec le service de médecine préventive qui préconise un certain nombre d'aménagements que je me charge ensuite de mettre en œuvre.
Merci. Et du coup, j'aurais une autre question qui en découle. Est-ce que donc votre rôle s'arrête à l'enceinte de l'université ou est-ce que vous intervenez auprès d'autres structures, administrations qui soient rattachées à l'université ou non ?
L'idée du forum et surtout de cette deuxième édition, c'est d'avoir une amplitude beaucoup plus conséquente. Et on a énormément de stands, beaucoup plus de stands que l'année dernière en termes d'information, de sensibilisation sur les questions de handicap, avec bon nombre de partenaires comme le rectorat, de manière à permettre aussi la transition entre les études secondaires et les études supérieures pour un accompagnement des futurs étudiants et étudiantes qui arrivent sur l'université et qui parfois ignorent justement tout le travail réalisé au sein de la passerelle handicap, l'existence de dispositifs propres. Et a posteriori, oui, il y a des liens avec un certain nombre d'associations et de structures comme Cap Emploi qui permettent ici de faire une passerelle aussi sur le marché du travail.
D'accord.
Le but, c'est vraiment d'accompagner à toutes les étapes, en fait, les études. Et puis après aussi l'insertion. On a des partenaires industriels, on va dire, d'entreprises qui nous aident pour mieux placer nos étudiants, les accueillir en stage, en alternance. Et il y a deux partenaires qui sont là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à venir sur le forum pour les rencontrer et voir les offres qui sont proposées.
Dans le cadre des aménagements de poste, tout est possible grâce à la convention que l'on a, que l'université a avec le FIPHFP, le fonds d'insertion, qui nous permet de financer effectivement tous les aménagements de poste qui sont nécessaires pour nos agents.
Eh bien écoutez, merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales thématiques qui sont abordées lors de ce forum aujourd'hui ?
Elles sont plurielles, les handicaps sont pluriels, donc on va retrouver à la fois les handicaps visibles, quand vous voyez une personne non-voyante avec la possibilité de tester les différentes cannes mécaniques, électroniques et de se mettre à la place d'eux. Mais il faut savoir aussi que 80% des handicaps sont invisibles et donc c'est une sensibilisation aussi autour de ces handicaps invisibles que l'on souhaite faire passer en cette journée avec des ateliers très ludiques. Comme la réalité virtuelle pour se mettre à la place d'une personne, par exemple, qui est malentendante et vive une réunion qui serait mal gérée, mal organisée, en se mettant à la place d'une personne malentendante. Et donc, ça permet de voir, se mettre à la place d'eux permet de voir justement tout le handicap situationnel que génèrent en fait ces mauvaises réunions ou ces mauvaises organisations. Parce que, encore une fois, notre approche, c'est de dire que le handicap est généré par la situation qui est mal maîtrisée. Si chacun, chacune des personnes sont sensibilisées à un environnement totalement inclusif, de fait, la plupart des handicaps ne s'exprimeraient pas.
D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose ou tout a été dit ?
On a également un enseignant qui est là et qui va pouvoir montrer, alors là je m'adresse aussi aux enseignants et aux personnes qui créent des ressources numériques, de voir l'impact pour une personne qui a des troubles de dyslexie, on parlait des handicaps invisibles, un bon tiers des étudiants qui ont des aménagements à la passerelle handicap ont des problèmes de troubles spécifiques du langage. Et lire comme une personne dyslexique, je pense que ça, c'est aussi très formateur.
D'accord, donc en fait, tout s'articule. Oh pardon, excusez-moi, oui, vous voulez rajouter quelque chose ?
Je voulais juste ajouter qu'il y avait Suzanne Lévesque, chargée du recrutement des personnels à l'université, et que toute personne peut candidater sans aucune difficulté. Les postes sont visibles sur le site internet, dans la rubrique « Travailler à l'université », et vraiment, tout le monde est invité à candidater si les compétences demandées sont là. Voilà.
Du coup, je vais vous demander comment vous pourriez encore encourager la participation des personnes, qu'elles soient handicapées ou non, durant ce forum. Je sais que, par exemple, juste en haut de nous, il y a des ateliers qui ont été mis en place dans l'entrée du rue. Donc, comment vous comptez sensibiliser encore plus, que ce soit les personnes en situation de handicap ou de non-handicap ? Je ne sais pas si ma question est très claire.
Alors,
mais...
L'idée, c'est qu'on a un lieu de passage. On est dans le hall de la maison de l'étudiant et on est juste devant le restaurant universitaire du forum. Et l'idée, c'est vraiment que les gens puissent, en allant manger peut-être, s'arrêter, discuter avec des jeunes de l'Institut régional des jeunes sourds, se mettre dans la situation de troubles spécifiques du langage, un trouble de cécité, etc. En fait, c'est que pour chacun, on ait l'opportunité de se confronter à la vie d'une personne en situation de handicap. Donc en fait, la cible de ce forum, en fait, c'est juste tout le monde. Voilà, c'est toute la communauté universitaire.
Et je rebondis sur ce qui vient d'être excellemment dit, étant donné que tout le monde peut se retrouver en situation de handicap, que ça soit temporaire ou permanent au cours de sa vie. Donc c'est vraiment une thématique qui concerne toute la communauté universitaire, étudiants, personnels et même au-delà, puisqu'on touche, on escompte toucher un public même de lycéens, de lycéennes, voire extérieur à l'université.
Avec l'espoir que nos étudiants deviennent peut-être un jour nos personnels.
Et donc du coup, j'avais aussi une question, c'est quels sont les projets futurs ou les initiatives prévues pour soutenir le forum ou soutenir les personnes en situation de handicap prochainement à la fac ou même sur la région d'Orléans ou dans la région Centre-Val de Loire?
Oula, c'est une question très très vaste, du plus simple au plus complexe. Au niveau de l'université, on est sur le deuxième forum handicap, déjà partant de cet événement qui a un dimensionnement déjà beaucoup plus conséquent pour cette deuxième année et qui a vocation aussi à croître, à avoir un dimensionnement et un rayonnement régional avec beaucoup plus d'institutions encore présentes. Donc ça, c'est un point important. Après, on a énormément de partenariats, de partenaires. Le FIPHFP, nous sommes en train de renouveler actuellement la convention qui sert à aider en termes de financement et d'accompagnement des personnels de l'université qui sont en situation de handicap. On a aussi des conventions avec Atout pour tous. On a des conventions multiples de manière à pouvoir accueillir au mieux l'ensemble des situations et faire du lien. Et je laisse bien évidemment Fabienne compléter.
Oui, l'idée, c'est d'avoir des pratiques les plus inclusives possibles, mais j'ai envie de dire de base. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question à se dire « Ah tiens, je vais avoir un étudiant fauteuil. Ah tiens, je vais avoir un étudiant aveugle. » En fait, on y pense dès le départ et puis on met tout ce qu'il faut pour avoir une accessibilité qu'on appelle universelle. Et dans ce cas-là, effectivement, le handicap ne s'exprime pas puisqu'il n'y a pas de blocage, que ça soit donc pour les étudiants et pour les personnels. Donc on va continuer nos efforts sur la formation des managers, sur la formation des enseignants et pas que, aussi les personnels qui accueillent les étudiants dans les bibliothèques, dans les secrétariats. En fait, tout le monde est mobilisé autour de l'inclusion.
Et une date fin novembre qui sera la 16e ou 17e édition du Duo D. Donc ça se passe toujours pendant la semaine européenne sur la thématique du handicap. Et l'objectif de ces journées est d'accueillir des personnes en situation de handicap et de les placer pour une journée en binôme avec des personnels de l'université.
Eh ben, je crois qu'on touche à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire sur sensibilisation ou sur un autre thème?
Non, tout simplement pour l'ensemble des auditeurs et auditrices en cette période méridionale, de venir faire un tour sur le forum handicap pour aller prendre 2-3 informations, tester 2-3 stands, la réalité virtuelle, certains jeux vidéo, de manière à ressortir un peu plus, avec un peu plus de connaissances et enrichi sur des dimensions qui leur seront forcément nécessaires dans leur vie, à l'instant T ou à l'instant T plus 1. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner dès aujourd'hui.
Merci pour vos réponses. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la deuxième partie de l'émission sur le sujet de l'insertion dans le milieu de l'enseignement et dans le milieu professionnel au niveau local, préparé par Ludo. À tout de suite.
Et place au titre de Samir qui s'appelle Your Song. Tonight I couldn't find love.
retour sur l'émission Écoute ta fac. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième forum handicap organisé par l'Université d'Orléans. Et nous avons avec nous Anna-Gaëlle Cellier, enseignante à l'Institut Régional des Jeunes Sourds, Ryan et Virginie, élèves de l'Institut Régional des Jeunes Sourds, ainsi que Marine Livré, chargée de mission sur le dispositif pour une alternance inclusive à l'association Prométhée 45, et enfin Chimène Joffre, conseillère d'insertion à Cap Emploi 45. C'est la deuxième partie de l'émission portée sur le sujet du handicap dans le milieu éducatif et dans le milieu professionnel, présentée par Ludo. Je te laisse la parole.
Merci Luna. Bonjour Chimène. Alors j'avais quelques questions pour vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter Cap Emploi, quelles sont ses missions, quels sont ses enjeux, notamment dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ?
Alors, Cap Emploi est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap vers l'insertion professionnelle. On va travailler essentiellement sur tout ce qui est compensation du handicap. On va accompagner les personnes sur la formation et sur la recherche d'emploi. On a un service côté insertion aussi qui est dirigé vers les entreprises pour accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse recruter des personnes en situation de handicap. Le deuxième grand service de Cap Emploi, c'est le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire on va accompagner les entreprises et les salariés qui sont en situation de handicap ou qui peuvent devenir en situation de handicap pour aménager le poste de travail. C'est les deux grands services qu'on a.
D'accord. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs rencontrés par les personnes handicapées lorsqu'il s'agit de trouver un emploi et d'y rester ?
Alors, la difficulté principale, c'est pouvoir adapter les postes de travail. C'est-à-dire accompagner la personne pour qu'elle puisse trouver un métier qu'elle peut exercer et au moment qu'il exerce, que ça ne pose pas de problème à la personne. Voilà. Et après l'accompagnement, nous, c'est essentiellement sur la réorientation parce que le handicap arrive très généralement au cours de la vie. On ne naît pas forcément en situation de handicap. Ça arrive au long de la vie et donc du coup on a un métier, on ne peut plus l'exercer, on a besoin de changer de métier pour retourner à l'emploi.
D'accord. Quelles sont aujourd'hui dans votre association les initiatives et les programmes disponibles pour faciliter cette insertion-là de façon plus concrète ?
Alors évidemment on accompagne toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en train de le devenir. On travaille dans les locaux des France Travail, et ça, c'est dû à un changement de 2021. Et dans toutes les agences France Travail, il y a des conseillers experts handicap Cap Emploi. Et l'objectif, c'est d'accompagner la personne et qu'il y ait un lieu unique d'accueil pour que les personnes en situation de handicap aient tous les services de droit commun et les services du droit spécifique aux situations de handicap.
D'accord. Concernant la question de l'insertion professionnelle, bonjour Marine Livet.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission pour pour une alternance inclusive.
C'est ça, exactement. Ouais.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce dispositif d'intégration professionnelle d'alternance inclusive ?
Alors moi, je suis chargée de mission pour une alternance inclusive, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes et des adultes reconnus en la qualité de travailleurs handicapés ou qui ont une notification de décision à la MDPH dans leur projet de formation en alternance. C'est-à-dire que ça peut être des jeunes, tu vois, tout simplement en sortie de classe ULIS au collège, lycée, pourquoi pas des étudiants aussi de l'université qui ont pour projet de réaliser une alternance. Comme ça peut être aussi des adultes en reconversion professionnelle. On regarde par exemple Cap Emploi qui m'oriente, une dame qui souhaite se réorienter professionnellement et qui a choisi la voie de l'alternance. Donc à la fois la formation et le travail en entreprise, je peux récupérer aussi des bénéficiaires par ce biais-là.
D'accord. Et quels sont les avantages de l'alternance pour l'insertion professionnelle ?
Alors,
pour les personnes handicapées.
Ce qui est bien, si tu veux, c'est que tu te formes au futur métier par le biais de l'organisme de formation et que tu appliques les compétences vues en cours, théoriques, par le biais de l'entreprise, tout en te formant aussi en entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu te formes tout au long de ton alternance, que ce soit au niveau des centres de formation que des entreprises. Donc, c'est de l'application pratico-pratique.
D'accord.
Ouais.
Et comment les personnes handicapées peuvent justement vous retrouver s'il y en a qui souhaitent justement avoir une alternance, tout simplement, quels sont leurs moyens si elles cherchent une alternance sur Internet ou via des associations de se diriger vers une alternance, par où elles doivent passer en fait?
Alors, donc moi je suis présente sur beaucoup de forums.
D'accord.
Donc ils peuvent me rencontrer en physique, sinon via le site internet de Prométhée. Il me semble que tout est explicatif. Et puis après, je réfléchis en même temps. Et puis sur notre site aussi, Dorm.
D'accord.
Effectivement. Ouais.
Sur Cap Emploi aussi, ouais. France Travail, il y a des possibilités.
De toute façon, tous mes collègues de France Travail sont au courant du dispositif. Donc c'est souvent eux qui nous orientent de futurs bénéficiaires pour l'apprentissage.
Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple, sur Internet, sur...
Il y a le site Prométhée 45 qui a tous nos coordonnées, les coordonnées des marines, les coordonnées de Cap Emploi. Il y a évidemment sur les locaux à Ormes, 4 impasse de Montbary.
D'accord.
Et on peut nous contacter au 02 38 18 98 00. 90, pardon. Je me suis trompée du dernier numéro. Voilà.
Une dernière question. Quels sont les progrès réalisés jusqu'à présent en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées et quels défis persistent encore aujourd'hui?
La difficulté la plus grande, de mon point de vue, c'est vraiment la capacité de la société à accepter que on peut travailler différemment et qu'il suffit en général de peu de choses pour qu'on puisse intégrer une personne en situation de handicap. Aménager un poste n'est pas quelque chose de si compliqué que ça, malgré ce qu'ils pensent beaucoup.
Oui.
Et ça permet vraiment l'accès à l'emploi. Et l'alternance, c'est vraiment un des moyens les plus forts, car on acquiert en même temps qu'une expérience professionnelle au cours de la formation. On sensibilise par ce biais l'entreprise à que ce n'est pas si compliqué que ça. Mmh. Et les coûts de l'alternance, en général, ne sont pas très élevés pour l'entreprise. Donc, c'est des risques qu'en général, ils prennent. Et après, il y a une grande fidélisation des apprentis. Les entreprises les gardent.
D'accord.
Oui, parce que si tu veux, je n'ai pas été jusqu'au bout de mon explication.
Oui,
donc, je vous ai parlé des bénéficiaires, mais aussi je peux orienter de futurs alternants au sein des entreprises.
D'accord.
Pour les aider dans leur processus de recrutement, par exemple, et de sécurisation du parcours.
Très bien. Donc, merci beaucoup. Je vais devoir malheureusement faire court parce que j'ai d'autres invités avec moi. Alors, je me retrouve. Bonjour Angèle Cellier. Est-ce que vous allez?
Oui. Bonjour.
Donc, vous êtes enseignante à l'Institut régional des jeunes sourds. Je me tourne vers vous du coup pour répondre à mes questions. En quoi consiste l'Institut? Quelles sont ses missions et comment vous accompagnez les étudiants en situation de sourdité?
Alors, donc je suis enseignante auprès des jeunes sourds. Notre institut en fait accueille des jeunes entre 6 et 20 ans.
D'accord.
Nous avons pour nous notre classe qui est ici, qui est la classe des grands, donc qui est les 15-20. Nous sommes une classe un peu spécifique, ce qu'on appelle les C2PI. C'est cheminement professionnel, personnel, individualisé. C'est une classe en fait qui sort souvent, c'est des élèves qui sortent de troisième et qui se recherchent en fait une formation professionnelle, voilà, et qui des fois retournent en études ou des fois on peut s'orienter vers des établissements de travail protégé.
Très bien. Quels sont les principaux aujourd'hui défis les principaux défis auxquels sont confrontés les étudiants sourds dans leur parcours éducatif et comment vous les accompagnez là-dessus?
Nous, en fait, le principal défi, c'est de leur trouver des stages en fait en entreprise et que les entreprises les acceptent parce qu'en fait, le premier obstacle qu'on rencontre, c'est souvent la communication. Mmh. Et la communication, ça peut être compliqué. Les personnes qui sont en face posent beaucoup de questions sur dire mais comment on va communiquer avec une personne sourde ? Alors qu'en fait, nous, nos jeunes, ils se débrouillent très, très bien. Voilà, soit ils signent, soit ils oralisent. Là, j'en ai deux. Ils peuvent tout à fait parler
plutôt,
avec vous. Si vous
plutôt
souhaitez.
Des idées reçues sur ce sujet-là de la part des entreprises.
C'est ça.
D'accord. Et quels sont justement les moyens peut-être pour essayer de briser un peu cette barrière de la communication avec les entreprises, ces idées reçues ? Est-ce que vous communiquez avec les entreprises justement pour cette insertion des personnes sourdes ?
Alors en fait, on fait un peu de sensibilisation. En fait, quand on rencontre des entreprises pour les stages, on leur explique voilà, quels peuvent être les biais de la communication. Des fois, on peut donner des signes ou des petites choses comme ça. Mais en fait, nos jeunes se débrouillent très très bien. Ils comprennent beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ils passent beaucoup par le mime. On a beaucoup d'oralisants quand même, de jeunes qui parlent en fait. Hein. Donc voilà, ils se débrouillent très bien en fait. Nous, on est surtout là pour soutenir en fait l'entreprise en disant « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ».
D'accord. Et donc, y a des instituts pour les étudiants sourds dans chaque région de France ?
Oui.
Je vois l'Institut régional des sourds. D'accord.
Oui.
Donc, chaque étudiant sourd peut se tourner vers vous s'il souhaite poursuivre sa scolarité. Enfin, comment ça se passe au niveau de la
prise en charge ? Alors, nous, on accueille surtout des sourds avec peut-être des fois handicap associé.
D'accord.
Après, il y a des sourds, il y en a partout. Ils passent pas forcément par notre institut. Il y en a qui sont en inclusion... comme des étudiants lambda, en fait, et qui peuvent être ici à l'université et demander à passer par la chargée, la passerelle handicap, pardon. Donc voilà, qui peuvent se débrouiller, en fait, tout seuls. Ils ne sont pas forcément obligés de passer par nous. Nous, on a des jeunes qui ont déjà une orientation MDPH pour passer par notre institut.
Quand MDPH, vous pouvez peut-être préciser le terme.
La maison départementale des personnes handicapées.
D'accord. Et comment les établissements d'enseignement pourraient-ils améliorer leur accessibilité pour les étudiants sourds et ou les entreprises aussi également, par exemple ? Si vous avez des idées, peut-être ?
Venez vous former en langue des signes, ça c'est déjà
oui,
bien.
Oui, c'est vrai.
Voilà, faites des sensibilisations à la langue des signes. Vous pouvez passer par Prométhée 45 qui doit le faire également. Nous avons dans notre association le CAIS qui fait aussi...
Bah, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cette interview. Avant ça, j'ai passé une dernière question aux étudiants. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience en tant qu'étudiant à l'Institut des jeunes sourds et comment se passent vos journées, comment vous êtes pris en charge, par exemple ?
Depuis la rentrée, j'ai arrivé à l'Institut. L'année dernière, j'étais au collège. J'avais passé de 6e à 3e. J'ai passé mes brevets. Du coup, cette année, je suis venue à l'Institut parce que je cherche des stages. Dans une pharmacie.
Mmh.
Dans une rayoniste.
D'accord, très bien. Et Ryan, un petit mot aussi sur comment se passe ton apprentissage, ta recherche de stage.
Moi, je cherche CFA. Et la semaine prochaine, je vais au stage au CFA.
D'accord.
À la formatite. Pour observer tout.
En informatique ?
Pas tout le temps.
D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez consacré à répondre aux questions. Je vais repasser la main à Lounas.
Merci à vous tous pour vos réponses. On revient dans quelques instants avec la troisième partie de cette émission sur l'aspect associatif du sujet du handicap, préparé par Chris. A tout de suite.
Et on se retrouve après le morceau de Night Flight, Girl on Fire.
Thank you. sort of like a mockery in a way of reality, because they think everything is smiles and sweetness and flowers when there is something bitter to taste. And to pretend there isn't is foolish.
streets, yeah, silence has a sound. We receive our blessings. Silence has a sound, but we still feel the love going round. On the streets, yeah, silence has a sound, but we still feel the love going round. We receive our blessings. We receive our blessings. Prosperity follows me. Knowledge ain't your enemy. On the streets, yeah, silence has a sound. On the streets, yeah, silence has a sound. But we still feel the love going round, going round. But we still feel the love going round, going round. Knowledge ain't your enemy. Prosperity follows me. Knowledge ain't your enemy.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac. Vous êtes bien sur l'émission Écoute ta fac. Il est actuellement midi 47 et nous avons avec nous Bernadette Delaveau, administratrice des PEP 45. KTAO, technicien numérique, ainsi que l'association Tandem avec Christophe Colliot, chargé de communication. Chris, tu nous as préparé des questions sur le sujet du handicap dans le milieu associatif, mais pas que. Je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Merci d'être présents autour de cette table. Je commencerai tout d'abord mon interview par la présentation de votre association à vous, Madame Bernadette Delaveau. Bonjour, merci d'être présente.
Bonjour. Donc...
Et à vous, monsieur KTAO, vous êtes technicien numérique.
Vous, bonjour.
Bonjour. Vous faites partie de l'association PEP 45 qui soutient aujourd'hui plus de 1500 jeunes et adultes ainsi que leurs familles. Vous employez environ 700 personnes, plus de 700 personnes, et vous gérez et présidez, l'association est gérée et présidée par les membres élus. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les principales missions de votre association?
Alors, notre association, donc, qui veut dire PEP 45, ça veut dire pupille de l'enseignement public au départ, mais ça a bien évolué. Notre objet est de, surtout dans le... Enfin, on est rattaché, pardon, à une fédération. Donc, dans toute la France, il y a des PEP. Alors, 45 pour nous, puisqu'on est Loiret. Donc, notre association est un réseau qui est porteur de valeurs, qu'il fait vivre depuis plus de 100 ans. La laïcité, la solidarité et la citoyenneté. On est particulièrement attentif donc, aux droits des personnes handicapées. Nous avons... des établissements, des services et des dispositifs dans tout le département parce que nous suivons 1700 personnes de zéro à la fin de vie, en fait, pour certains, selon le type d'établissement. Nous avons aussi bien un centre d'action médico-social précoce que des maisons d'accueil spécialisées ou des services. Que puis-je vous dire? Donc, dans le Loiret, on est surtout médico-social, mais dans la France entière, les PEP s'occupent aussi de loisirs, d'éducation, l'accompagnement de l'éducation scolaire, des centres d'accueil, pardon.
C'était la nature de ma seconde question, c'était justement quels sont les grands programmes ou les grandes initiatives mises en place par votre association afin d'essayer de développer des structures pour répondre aux besoins et aux attentes de vos de vos bénéficiaires, si je peux dire, si je peux dire ainsi.
Oui, tout à fait. Nous sommes une association de loi 1901, quand même, pour vous dire, avec un conseil d'administration, un président, Gilles Gaillard. Moi, je suis au bureau avec d'autres personnes. Et vous me demandiez si nos grands projets... Donc, je vous disais, donc, nous, dans le Loiret, c'est surtout sur le médico-social. Donc, ça veut dire que nous sommes financés par des organismes publics comme l'ARS, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, etc. Nous, notre grand projet, c'est l'inclusion, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aussi bien au niveau des petits-enfants dans les crèches ou dans les écoles, dans toutes les écoles, hein, maternelles, primaires, secondaires, etc., jusqu'à la fac, puisqu'ici on est à la fac aussi, et ça pourrait être par différents services d'accompagnement selon le type de difficultés rencontrées. Ensuite, on fait le maximum pour que les personnes soient acteurs de leur propre situation et de leur propre évolution en évaluant avec eux les besoins qu'ils ont, eux et leurs parents quand c'est des petits, hein, bien sûr, ou leur famille ou les personnes qui s'occupent d'eux. Que puis-je dire ? Donc, on suit au niveau éducatif pour la scolarisation, au niveau social pour permettre l'insertion dans la société ordinaire, dite ordinaire, et l'emploi pour l'insertion professionnelle, de même que des accompagnements au niveau... on a beaucoup travaillé aussi sur le sport, sur la, on commence à travailler de plus en plus sur la culture aussi, pour que l'accessibilité soit valable dans toutes les situations de vie de la personne, des personnes.
Je regardais sur votre site internet, il me semble que vous avez mis quelque chose en place pour notamment les JO. Donc, qu'est-ce que vous, concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour rendre accessible au plus grand nombre le sport et cette année qui doit être une grande fête populaire, y compris pour nous, nos Français, nos concitoyens qui sont handicapés.
Alors, nous mettons en place depuis longtemps dans chacun des types d'établissements que nous avons, hein, des activités sportives et culturelles, mais sportives. Nous avons dans un IME des champions de judo handicap. Il y a aussi quelqu'un qui fait de l'aviron, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais l'aviron spécialisé. Et puis donc tous les jeunes sont appelés à faire du sport quand ils sont de même que quand ils sont à l'école en fait, hein. Après pour les adultes, bien on a des sports un peu spécialisés. On a aussi un champion de boccia. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non, à titre personnel, non.
Alors, c'est très simple. Hein, c'est en fait une sorte de pétanque adaptée. D'accord. Avec des boules qui ne sont pas des boules de pétanque, mais qui sont des boules adaptées en cuir et en... Voilà.
D'accord.
Après, nous avons fait les Olympèpes il y a très peu de temps. C'était quand ? La semaine dernière, je ne sais plus. J'y étais, mais je me souviens, ça va vite. C'est-à-dire que nous avons invité l'ensemble de nos établissements à faire des compétitions sportives sur toute une journée à Boigny-sur-Bionne. Là, on avait le grand gymnase, etc. Et puis, lors de ces Olympèpes, notamment, l'une de nos personnes handicapées, je ne sais plus parler français, a gagné une place pour les JO, par exemple. Génial. Avec un accompagnant qu'il choisit. Tout est fait dans ce sens, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation de la personne, y compris les personnes qui sont très, très, très lourdement handicapées, on fait le maximum pour développer des choses en prenant en compte toujours leur perception, leurs demandes, etc.
Et cette pratique du sport, vous la faites entre personnes dites valides et des personnes en situation d'handicap.
Alors,
vous les faites ensemble ?
Les Olympep, on les a fait avec nos établissements. Donc, c'était les accompagnants étaient valides et ils accompagnaient les personnes handicapées. Mais nous travaillons aussi à essayer de développer dans les clubs de sport dits ordinaires la possibilité pour les jeunes. Donc, on les accompagne. Il y a un service qui va former, enfin, informer et former les gens sur les possibilités, les difficultés ou les aménagements possibles de façon à ce que les clubs puissent inclure très exactement les personnes qui ont moins de chance que d'autres et qui sont porteurs de handicap.
Je me tourne vers vous, Monsieur Katao. Est-ce que vous avez participé aux Olympiades ?
Alors moi, je n'ai pas participé cette année, j'ai participé plutôt l'année dernière. Mmh. Et en fait, mon accompagnement se fait plutôt sur le numérique.
Oui, c'est ce que je dis. Vous êtes technicien numérique, chargé en charge de l'adaptation numérique, c'est bien ça ?
Voilà, donc le terme numérique, c'est très vaste. Hein, mmh. Ça englobe voilà, tout ce qui est tablette, smartphone, PC. Et l'année dernière, en fait, plutôt l'année dernière, il y a 2 ans... Moi, j'ai plutôt été dans l'adaptation de jeux vidéo, voilà.
Génial.
Pour cette journée-là. Et ça a permis, en fait, comme disait Bernadette, de faire de l'inclusion, en fait. Parce que tout a été fait pour qu'une personne valide puisse, en fait, accompagner sur ce temps de jeu vidéo une personne dans cette situation d'handicap.
Donc, c'est-à-dire que vous adaptez la console ou est-ce que vous adaptez les jeux pour les rendre accessibles ?
Plutôt le moyen d'accès, on appelle ça.
D'accord. Donc les manettes.
C'est-à-dire que voilà, exactement. Tout ce qui est manette, aujourd'hui, on peut en trouver des adaptés. Mmh. Mais par contre, voilà, qui vont être grand public et puis en général, voilà, adaptés à un public général. Par contre, nous, on va vraiment le personnaliser pour chaque personne qui va participer à cette session. Voilà.
Je suppose que ça a énormément de succès.
Oui, auprès des jeunes surtout.
Oui, ça je pense bien. Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vais passer à monsieur Christophe Colliot, si je prononce bien. Vous êtes chargé de communication, chef de service au centre d'action et d'information sur la surdité. Vous faites partie de l'association Tandem. En quelques mots, l'objectif, c'est l'inclusion des personnes en situation d'handicap afin de proposer une offre de services innovants. Donc, des personnes en situation d'handicap moteur, polyhandicap, des personnes présentant ou non des difficultés intellectuelles et les personnes âgées dépendantes. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. On intervient sur, un peu comme les PEP, hein, sur toute la chaîne de la vie des personnes, de la naissance à l'EHPAD, sur la région centre, l'ensemble de la région centre et la Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on a 3 établissements en Bourgogne-Franche-Comté.
D'accord. En quelques mots, comment faites-vous pour prendre la mesure des besoins des personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est elles qui vous disent en fait, j'ai besoin de ça, ça ou ça ?
On a un peu les deux, oui, effectivement. Nous, on travaille avec les personnes, c'est-à-dire qu'elles sont acteurs de leur projet. Du coup, on peut avancer avec leurs envies, avec leurs besoins. Et puis, on a aussi, faut pas se leurrer, nos financeurs, ARS, Conseil départemental, qui nous incitent aussi à orienter notre action vers telle ou telle action pour être au plus proche des besoins. Donc, c'est un peu le croisement des deux et le projet politique de l'association qui fait qu'on arrive à bâtir un travail qui correspond à la fois aux besoins des personnes, qui correspond aux demandes des financeurs.
D'accord. Comment faites-vous pour vous adapter au mieux au type de la population ? Parce que j'ai vu que vous aidiez les jeunes adultes, enfin les adultes, les jeunes enfants et les personnes en situation d'handicap. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des pôles selon les besoins ou selon plutôt le type de population que vous souhaitez aider ?
Alors déjà, nous, de par l'histoire de l'association, on est un peu scindé en deux. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'association qui est sur les aspects handicap moteur et polyhandicap et l'autre partie de l'association qui est sur les questions de surdité et déficience auditive, notamment avec l'Institut Régional des Jeunes Sourds qui est présent aujourd'hui. Donc déjà, voilà, ça fait 2 pôles. Et après, effectivement, on va réfléchir en termes d'âge. Donc plutôt un pôle enfant-jeunesse qui est assez large parce que l'idée l'idée n'étant pas d'enfermer un jeune dans un établissement, mais plutôt de lui permettre de naviguer dans les dispositifs, plutôt un pôle sur les questions de travail et d'accès à l'emploi, et un pôle qui est plus axé sur les accès au logement et la vie sociale, je dirais, d'accompagnement vers le droit commun, parce que l'objectif, c'est quand même celui-là, d'accompagner la personne vers le droit commun, de la sortir du médico-social. Et au maximum, tout ce qui peut être fait en droit commun dans la cité doit être fait en droit commun dans la cité.
Très bien. Concrètement, est-ce que vous agissez dans les établissements scolaires publics afin d'accompagner des personnes en situation de sourdité?
Oui, parce que pareil, la question de l'Institut régional des jeunes sourds, c'est notamment des jeunes qui, pour beaucoup, sont à l'école, sont au collège, dans des classes classiques, alors avec des professeurs qu'on appelle des professeurs CAPEJ, qui sont des professeurs spécialisés dans l'enseignement à la surdité, avec éventuellement des interprètes, avec éventuellement des adaptations. Mais l'idée étant que les jeunes soient à l'école, et nous, l'Institut va accompagner l'école à accompagner l'enfant. Et on a aussi tout un volet, notamment par le biais du centre d'action et d'information sur la surdité, où on va aller sensibiliser les acteurs, notamment dans les écoles, dans les collèges, sur les troubles de l'audition. C'est quoi une personne sourde? Comment on communique avec une personne sourde? Quelles sont les attitudes à avoir? À quoi on fait attention pour que vraiment la personne sourde dans un établissement scolaire classique soit le mieux accompagnée possible?
Donc vous les accompagnez tout du long de leur scolarité, jusqu'à la fac d'Orléans?
Jusqu'à la fac d'Orléans, mais même après, jusqu'en entreprise, éventuellement avec de la médiation sous-entendant, jusqu'à l'entreprise.
Donc ce qui est génial, c'est que vous accompagnez, vous êtes présent à chaque étape de la vie des personnes qui ont besoin de vous.
Oui, bah, je pense que c'est tout l'objet aujourd'hui de nos associations, d'accompagner les personnes dans la vie sociale. Donc à chaque étape, et on voit des gens qui vont avoir des problèmes, des besoins de nous à des moments, et puis on ne va plus les revoir pendant 2-3 ans. Et puis un autre problème, nous on a des gens qui vont très bien aller à l'emploi, puis pouf, il va y avoir une question de parentalité qui va se poser. Donc ils vont revenir nous voir pour l'accompagnement à la parentalité, puis on ne va plus les voir pendant 3-4 ans, et on va les revoir sur d'autres sujets après.
D'accord, c'est génial. Je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter.
Alors moi, je vais peut-être vous rajouter que le 15 juin, il y a un échauffement public de breakdance avec les B-Boys Hyper, Le Fleuriste et Fedix. Et c'est un B-Boy, les B-Boys Hyper, c'est un groupe qui fait de la danse, enfin de breakdance avec des personnes handicapées aussi.
Eh bien, je vous invite à y aller.
C'est Place du Martroi, je crois. Non, c'est à La Source.
Ça, La
oui,
Source.
Oui, Place du Martroi, pardon.
Bon, on confirme, c'est bien Place du Martroi.
Oui, c'est ça.
Parfait. Bon, ben, nous Merci. Vous invitons à y aller. Et le mot de la fin pour vous, monsieur Oligo.
Nous, on est très contents, en tout cas, d'être là. Et c'est vrai que tout ce qui nous permet d'être à la rencontre aussi, notamment de l'université, et puis de tous les acteurs, et de faire connaître nos associations et le travail qu'on fait, c'est toujours intéressant. Et surtout sur un trouble de l'audition, qui est un trouble qui est de plus en plus présent, de plus en plus jeune. Et je pense qu'il est important aussi que les étudiants s'intéressent à leur audition et prennent soin de leurs oreilles.
Je pense aussi.
Mais... C'est pareil pour nous. C'est vrai, les associations travaillent dans le même
tout
sens.
Tout pareil, de toute façon.
En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de conférence, de forum. Et je repasse tout de suite le micro à Luna. Merci.
Merci à tous les intervenants. Merci à vous pour nous avoir éclairés sur le sujet du handicap. Merci à nos chroniqueurs qui se sont transformés en intervieweurs le temps d'une émission. Et merci à Nico et Erwan pour la technique, bien évidemment. Et oui, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.